La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour. Après Georges Rouault, Jean Cocteau, après le prudent, le contemplatif autour de Art et Scolastique. Deuxième volet donc de l'étude de Art et Scolastique ou d'une certaine approche. C'est une œuvre écrite en 1920. Pour rappel, les œuvres autour de l'art de Jacques et de Raissa Maritain forment une véritable chaîne. En 1935, ces frontières de la poésie, précédé en 1926 de Réponse à Jean Cocteau, Situation de la poésie en 1938 et en 1953, L'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Cette Réponse à Jean Cocteau de 1926 nous permet de nous arrêter un petit peu sur l'apport de Jean Cocteau à la réflexion de Jacques Maritain. Avec Rouault, on a vu finalement que l'artiste est un artisan, que l'art entre en conflit avec la prudence et que Rouault est finalement la figure du prudent. Voilà ce qu'écrit Jacques Maritain dans Art Scolastique. Le prudent et l'artiste se comprennent difficilement. Au contraire, le contemplatif et l'artiste, perfectionnés l'un et l'autre par un habitus intellectuel qui les rive à l'ordre transcendantal, sont en état de sympathiser. Ils ont aussi des ennemis qui se ressemblent. Seule la sagesse, étant placée au point de vue de Dieu, qui domine également celui de l'agir et celui du faire, peut accorder parfaitement l'art et la prudence. Jean Cocteau est l'image de l'artiste contemplatif. Et dans cet échange de lettres qui deviendront des lettres publiques en 1926, il y a tous les fils de la pensée de Jacques Maritain dans sa réponse à Jean Cocteau, qui se présente véritablement comme une matrice. Alors regardons un peu ce qui lui répond. La discussion se fait autour de la poésie, de la sainteté, de l'opium, de l'homosexualité. Les sujets sont variés. Cocteau a une plume qu'on ne va pas regarder aujourd'hui. Mais voilà ce que Maritain peut lui répondre pour aller au cœur du sujet. L'office principal du thomisme a été et restera toujours d'ordre sacré. Élevé sur les tours de l'Église, il défend théologiquement la vérité divine contre toute agression d'erreur. Maintenant, le pape lui a commandé de descendre aussi dans la rue, au scandale des gens raisonnables qui pensaient l'avoir bien classé dans leur dossier à sa fiche chronologique. Bien sûr que la scolastique chrétienne n'avait rien de plus en elle que la scolastique musulmane ou la scolastique bouddhiste. Le temps est venu pour lui de travailler philosophiquement dans le profane, de promener à travers le monde sa jeunesse renouvelée, sa curiosité, sa hardiesse, sa liberté, et de rassembler ainsi l'héritage dispersé de la sagesse. Pour la plus ambitieuse aventure, on s'équipe avec le plus de soin. Plus stricte, plus définie sera la doctrine, plus sévère la discipline, plus complète la fidélité et plus libre sera le jeu. Rien n'était plus simple à comprendre, mais quel programme ! De l'avoir entrevue est cause que je ne suis content de rien de ce que je fais, que je pense plus de mal de moi que tous mes critiques, et que n'était la charité, dont j'espère de Dieu quelque étincelle, je ne verrai en moi que déception et vain labeur. Mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai que les positions difficiles sont les seules bonnes. Qu'on ne dise pas, parce que nous échangeons ces lettres, que nous prétendons annexer, vous, ma philosophie à votre poésie, moi, votre poésie à ma philosophie. Nous prétendons seulement qu'elles peuvent s'aimer tout en restant libres. Donc, en haut du triangle, l'amitié. En bas, dans les deux points, d'un côté la poésie, d'un côté la philosophie et un échange possible entre les deux. Que va apporter Cocteau à Maritain ? Tout simplement l'avant-garde. Qu'est-ce que l'avant-garde? Finalement, l'avant-garde, c'est une soif d'absolu. On peut dire que l'élan qui anime le mouvement d'avant-garde, dans son ensemble, au-delà de la contestation de toute démarche de prime abord négative, est la quête d'un sens que l'on pourrait qualifier d'épaisseur ontologique, face à l'inconsistance de l'académisme et des valeurs véhiculées par la montée de la bourgeoisie, dont en philosophie le positivisme et le scientisme peuvent être perçus comme des courants directement liés à son avènement. Cocteau sera finalement un interlocuteur de prédilection pour Jacques Maritain, avec une amitié indéfectible qui ne s'arrête pas, ne se retire pas au-delà des dissensions et des options différentes. L'opium va traverser la vie de Cocteau, qui retournera dans des cures de désintoxication, les éloignements, les retours, mais il sera là, au chevet de Raïssa, quand elle mourra à Paris en 1960. Une amitié fidèle, une amitié autour de l'art. Il faut voir les lettres de Cocteau et de Jacques Maritain, les lettres de Cocteau toujours ornées de dessins, d'arabesques, et on sent qu'il y a eu un véritable dialogue entre les deux hommes. Nous allons le reprendre après une plage de musique de Darius Milhaud. Pourquoi Darius Milhaud? Parce qu'il fait partie des auteurs qui ont fréquenté les Maritains. Et je vous laisse apprécier ces plages brésiliennes.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Quel est le nerf de la guerre dans le dialogue entre Jean Cocteau et Jacques Maritain? Eh bien, c'est le rapport entre la mystique et la poésie, entre la grâce et la poésie. Je donne la parole à Claude Lorenz, conservateur du Fonds Maritain à la BNU, dans le catalogue cité dans l'émission précédente sur Maritain et les artistes. Voici comment il décrit cette relation entre Maritain et Cocteau. Le philosophe a conscience d'être placé à un moment déterminant de l'histoire de cet art, où, plus que jamais, confronté à son propre mystère, impliqué dans les luttes suprêmes de l'esprit, tiraillé entre les bons et les mauvais anges, celle-ci peut basculer du côté de Dieu ou s'échouer ailleurs. Voilà le point vif, l'art symbolise la grâce, déclare Maritain à Cocteau. Entre le mode de la poésie et celui de la sainteté, Maritain perçoit un rapport d'analogie. L'inspiration du poète rencontre au sein du créé le regard de Dieu. La réponse à Jean Cocteau de 1926 précise les intérêts propres de l'art et de la mystique, ne les distinguant que pour mieux les appeler à se rejoindre à leur point extrême de convergence, juste au croisement des bras, de la croix. L'enjeu, au fond, de cette convergence, cette direction de sens entre mystique et poésie, c'est la pureté de l'art. C'est peut-être au nom de cette quête de pureté que l'avant-garde est si virulente, si diversifiée. Écoutons un peu les critiques de Benjamin Fondane, autre ami de Jacques Maritain, qu'il revendiquait déjà dans son faux traité d'esthétique, dont Le poète et le schizophrène, la conscience honteuse du poème, constitue un article. Il dit « Depuis le romantisme, la poésie essaie violemment d'expulser d'elle cette excroissance religieuse, mais elle ne peut se faire arracher le fibrome qu'avec ses propres ovaires. De là cette sorte de perte d'axe, de méfiance de soi, de suicide lent, qui fournit son tableau clinique de nos jours. Impossible de se retrouver, de n'être que soi exclusivement dans une société laïcisée. D'autre part, servir de soupape aux religieux l'oppresse. Mais suivre le courant, se laisser laïciser, c'est périr. La dictature du rationnel l'accule à ce dilemme, ou de trop, ou rien. Aider au renforcement de cette dictature, faire de la poésie une connaissance, c'est opter pour la mort, par crainte de mourir de pléthore d'un coup de sang. » Dans la mouvance du dadaïsme et non du surréalisme, Benjamin Fondane pointe ici l'erreur de Rimbaud. Rimbaud, dans cette vision du voyant, le poète est un voyant, il veut faire concurrence finalement à la science. Il va avoir une science et du coup il fausse la finalité première de l'art qui est d'abord l'œuvre, faite, la gibilée comme nous disions dans l'émission précédente. Et en faussant cette finalité, il vole, comme Prométhée vole le feu, quelque chose qui n'est pas à lui, et de ce fait, il ne peut plus écrire. Ce qui est, selon Maritain, une explication du silence de Rimbaud. Donc danger dans la poésie qui ne prend pas conscience que dans sa quête de pureté, elle risque de tomber dans un changement de finalité et finalement de ne plus pouvoir exister. La pureté de l'art fait partie d'une section très importante de art et scolastique. Même si nous sommes en 1926 dans une conversation épistolaire avec Jean Cocteau, ces problématiques sont déjà en germe dès 1910, nous l'avons vu, et ne seront que approfondies, développées tout au long des écrits de Jacques Maritain sur l'art. Qu'entendre par pureté de l'art ? Eh bien, Maritain dit que l'art doit tremper dans la logique. Non pas dans la pseudo-logique des idées claires, vous voyez une pique contre Descartes, et non dans la logique de la connaissance et de la démonstration, mais dans la logique ouvrière, toujours mystérieuse et déconcertante, celle de la structure vivante et de la géométrie intime de la nature. C'est en ce sens que l'on peut parler de philosophie réaliste. Structure vivante, vous retrouvez une dimension de biologiste, n'oublions pas que Maritain est aussi un biologiste, et géométrie intime de la nature, nous avons ici la référence à la nature. Donc pour Maritain, cette logique, n'oublions pas que l'art a été décrit en fonction de la logique, puisqu'on hérite de cette réflexion médiévale de l'art. Donc l'art dans ses profondeurs est essentiellement créateur en gardant une logique. Et dans Frontières de la poésie, Raissa Maritain reviendra sur cet élément en disant finalement l'écriture automatique du surréalisme, n'oublions pas 1924, le manifeste du surréalisme d'André Breton, ce sont ces années-là qui sont des années très effervescentes, cette logique a été omise par le surréalisme et elle n'est pas possible. On ne peut pas faire d'art sans cette logique. Cet idéal de pureté doit se faire dans la logique. Du coup, l'art doit se débarrasser de toute intention étrangère en elle-même à l'œuvre artistique. L'art est humain, il ne relève certes ni de l'ange ni de l'animal. La musique ou la poésie pure signifie leur prétention de n'être pas avec ce qui est, de rompre effectivement avec les conditions d'existence qu'elles ont dans le sujet humain. Cela signifie qu'elles vont s'attribuer l'acéité de Dieu. Elles prétendent alors renoncer à la condition humaine, elles prétendent renoncer à se spiritualiser, à devenir ce qui, si elles le devenaient, serait équivalent à la mort. Il faut bien comprendre que dans pureté, il ne faut pas quitter la dimension humaine. Dans l'essence de l'art existe une profonde antinomie. Il y a les exigences de l'essence de l'art, considérées comme transcendantes, et les conditions de l'existence, exigées précisément de la part de l'essence réalisée. Et la référence est toujours Dieu. C'est seulement en Dieu que se trouvent réalisés tous les transcendantaux à l'état pur, et dans les sujets créés seulement par participation. Dans l'émission précédente, j'ai parlé du spirituel qui descend dans le temporel, et c'est toujours ce même mouvement, qui est un mouvement d'incarnation, qui nous permet de comprendre comment on peut préserver la pureté de l'art et comment le mouvement d'avant-garde a influencé Maritain, l'a fait réfléchir, tout en gardant l'existence et la participation du créé à Dieu. Nous reviendrons après une autre petite plage brésilienne de Darius Milhaud.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Depuis le début de nos émissions, nous entendons des auteurs, soit russes, Valérie Azoumanov dans les premières émissions, soit français, Aimé de Maritain. N'oublions pas Georges Auric qui était un grand ami des Maritains aussi. Alors pour revenir à l'apport de Jean Cocteau dans la pensée de Maritain, c'est aussi l'amitié. Voilà ce que dit Maritain dans cette fameuse lettre de 1926. L'amitié met tout en commun. Tentation, en ce qui concerne les objets formels du philosophe et du poète. Tentation, qui obsède les meilleurs de notre temps et qui risque de noyer notre époque dans une confusion très basse. Réservons les objets formels. Brouiller les objets, c'est faire infailliblement qu'un jour les sujets se brouillent. Ainsi, l'amitié même engendre la discorde, comme chez le vieil Empédocle. Nous savons distinguer. protégeons notre amitié qui est dans le ciel. Bel adage de ne pas brouiller les objets formels. Pour terminer cette émission, je voudrais donner la parole à Mircea Vulcanescu, un immense auteur roumain qui est passionné par la France et qui s'est penché sur les écrits de Maritain sur l'art. Et voilà ce qu'il écrit dans la relation entre Jacques Maritain et Jean Cocteau. Je tiens à mentionner la Roumanie, qu'on appelle la petite sœur de la France, qui serait sa sœur aînée, et qui, dans la période de l'entre-deux-guerres, a vu tous ses intellectuels venir passer un an avec une bourse en France, ou même y rester. On doit beaucoup à cet éclairage un peu lointain dans l'enclave latine des Balkans, qui permet de mieux comprendre cette relation entre Jacques et Jean Cocteau. Dieu a envoyé un missionnaire à Jean Cocteau, un ange, ce fut Jacques Maritain. Que mon équilibre était une lutte avec la mort. La place que ce Jacques Maritain occupe dans la renaissance contemporaine du thomisme est grande. J'essaierai peut-être de mieux le clarifier un jour. Maritain est toujours dans le rôle ingrat, de celui qui oblige, qui précipite, qui donne forme à des expériences religieuses destinées à rester vaines et stériles. Sa mission est d'obliger celui qui se tient devant lui à assumer les responsabilités logiques des affirmations qu'il pose. Il est significatif de constater le rôle que Maritain a eu dans le changement spirituel de Peggy, comme le rapporte le livre sur ce dernier des frères Jérôme et Jean Tarot. La mission de Maritain a en soi, pour l'homme moderne, quelque chose de tragique et en même temps de magnifique. Lui aussi aurait pu dire avec Cocteau, monde à moi qui me chasse de l'autre monde. Mais en sens inverse, car Maritain oppose à l'homme moderne de manière radicale un non catégorique. Au nom de quoi ? Au nom de l'intelligence. Au nom de l'intelligence et sous son signe s'est formé aujourd'hui le mouvement de renaissance antimoderne. Au nom de l'intelligence, avec la mission spécifique de sauver l'intelligence, la doctrine de l'école porte des coups à la caricature de l'intelligence proposée par les modernes. Malheur à moi si je ne thomistise pas. Justement, ses adversaires sont obligés de le reconnaître. Et sur Cocteau aussi, Maritain a probablement exercé une pression, merveilleuse pression, pression qui n'est pas pression. C'est ainsi que Jean Soulayrol a pu justement écrire « Cocteau avait besoin urgent de la cure du regard bleu de Maritain. » Regard bleu, oui, parce que Maritain avait les yeux bleus. Besoin urgent de la cure du regard bleu de Maritain qui transperçait les âmes, qui marquait les auteurs. Et cette rencontre de Cocteau et de Maritain, si bien perçue, sentie par quelqu'un qui n'est pas du monde, on va dire, de l'Église romaine, puisqu'on est en terre orthodoxe, avec une autre théologie, une autre vision, une terre qui n'est pas facile pour l'expansion du thomisme, est important. Ce témoignage nous permet de mieux comprendre. Alors, pour rebondir sur la prochaine émission, dans laquelle nous nous attacherons à Marc Chagall et Arthur Lourier, qui sont des amis des Maritains, un ami proche, un russe, et un ami qui est mort dans la maison de Princeton des Maritains. Eh bien, il faut bien comprendre que l'objet formel, Maritain n'y renonce pas. Et voilà une phrase qui pourrait nous permettre de conclure cette émission autour de la contemplation, la poésie et la philosophie. La raison ne consiste pas seulement dans ses manifestations et ses instruments logiques conscients. Bien loin, au-dessous de la surface ensoleillée, peuplée de concepts et de jugements explicites, se trouvent les sources de la connaissance et de la créativité, de l'amour et des désirs suprasensibles cachés dans la primordiale nuit transparente de la vitalité intime de l'âme. Nous sommes déjà dans l'intuition créatrice, dans l'art et la poésie. À la semaine prochaine.